Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Bojina. Bonjour.
Bonjour.
Benoît.
Bonjour.
Et nous attendons aussi Chloé qui viendra nous rejoindre. Et vous êtes donc administrateur de l'association Cinédi. Et vous êtes ici pour nous annoncer une actualité à venir, celle du dimanche 15 mars, où vous projetterez au cinéma Le Pestel, La Commune de Peter Watkins. Ça aura lieu à 9h30. Et donc, vous nous expliquerez un peu aussi cette proposition et le contexte, puisque ça sera le premier tour des élections municipales. Avant tout, Cinédi, qu'est-ce que c'est ?
Cinédi, qu'est-ce que c'est ? C'est une association, c'est regroupé il y a environ 3 ans, autour du cinéma et autour de Di, comme son nom l'indique. On est donc une partie de personnes qui faisons du cinéma, de la vidéo, de l'audiovisuel à des postes différents. On est aussi une partie de gens qui sont intéressés par cet art, par ce spectacle, par cette forme de création. On s'est rassemblés avec la volonté de vouloir agir sur le territoire d'Iwa. Donc déjà de soutenir Le Pestel, qui est un cinéma indépendant quand même assez exceptionnel, étudié même dans le monde universitaire pour sa réussite. Et son succès. On est tous arrivés sans trop connaître le monde de l'exploitation et de l'animation de cinéma et donc à se proposer, à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une salle qui a déjà des gens qui s'en occupent. Qu'est-ce qu'on peut proposer en plus qu'eux n'auraient pas le temps de faire? Est-ce qu'on peut être en soutien dans la structure qui gère quotidiennement, économiquement ce cinéma, donc, qui est donc géré par DSP? On a assez vite été très bien accueillis par l'équipe et notamment Chloé Guillem qui va nous rejoindre, qui était avec qui on a pu mettre un pied, commencer à organiser des séances régulièrement le dimanche matin, une fois tous les 2 mois pour l'instant. On est en train de passer à une fois par mois maintenant. On s'est aussi structuré autour de ce qu'on appelle l'animation éducatrice et artistique, l'EAC. Donc l'animation d'ateliers à la vidéo. On en anime pour l'instant de Hall du Pestel avec de nos membres. Il y a des ateliers plus liés à des projets de création en territoire. Parce que comme on est une partie à faire des films, on a aussi une volonté de faire vraiment des films ici avec des gens d'ici au maximum. On essaie d'organiser des séances que ne peut pas organiser Le Pestel aussi, comme des projections en plein air, un peu événementielles. On en a fait notamment sur la façade de la cathédrale, on en a fait à la piscine, on en a fait à Châtillon. Des choses qui sont un peu trop hors du circuit économique et des contraintes de temps, enfin de calendrier et que subit Le Pestel. Et voilà, et puis on essaie d'être source de réflexion et de soutien avec aussi notre association qui est impliquée dans Le Pestel, qui est Le Pestel Café, pour donc là, ce changement de DSP qui va arriver et qui est un autre sujet qu'on pourra aborder sans doute un peu plus tard.
Avant de continuer, j'aimerais que vous puissiez exprimer votre activité liée au cinéma ou à la vidéo. Benoît, je crois savoir que tu es vidéaste. Tu proposes d'ailleurs Diwa Vidéo, il me semble.
Oui, c'est quelque chose une chaîne qu'on a essayé de lancer l'année dernière. Alors pour l'instant, elle est pareil, un peu en pause. Elle n'a pas perduré. Oui, moi je fais de la vidéo du cinéma, sous forme d'atelier, sous forme de recherche universitaire. J'ai fait de l'enseignement aussi, pas dans le Diwa. Et de la réalisation de différents projets, plutôt pour des projets courts pour l'instant, aussi des captations pour le spectacle vivant, des clips, voilà.
Bojina, pareil.
Je suis cinéaste, ouais, je fais des films, je fais des documentaires et je co-écris aussi des scénarios de fiction. Il m'arrive aussi d'être script sur certains tournages.
Vous expliquerez un peu rapidement ce que c'est un script.
Script, c'est la personne qui, est comme une sorte de premier spectateur, mais sur le plateau du tournage. C'est comme si elle essayait de faire abstraction de tous les aléas d'un tournage, qui peuvent être très nombreux, il peut y avoir un grand chaos. Et en fait, c'est comme si elle fermait les yeux, elle essaye d'imaginer tous ces plans qui sont en train d'être tournés. Est-ce que si on les colle, ça va marcher ?
Et donc, vous agissez vraiment pendant la prise de vue effective.
Et oui, c'est une collaboration très serrée avec la mise en scène, donc avec la personne qui réalise, mais aussi l'image et les acteurs, souvent.
Vous-même avez un guide, hein, c'est-à-dire le scénario ou...
Ah oui, tout à fait. Le scénario, c'est l'outil, la script a toujours un scénario sur elle qu'elle peut tendre à toutes les personnes sur le plateau qui sont perdues. Un scénario annoté de tous les côtés, de toute la mémoire de ce qui a été dit au préalable pendant la préparation. Elle est un peu garante de respecter les intentions qui ont été mises sur la table avant de se lancer dans l'aventure du tournage où tout peut être remis en question à chaque instant.
Ça ne doit pas être toujours facile, non ?
Effectivement, ça peut être c'est un peu challengeant d'être dans un rôle un peu de médiation, je dirais. Et en même temps, c'est très, très excitant parce qu'on est un peu au cœur des discussions les plus brûlantes, artistiques, sans être non plus la personne qui décide. Et donc, c'est très sympa.
Chloé, pareil, hein, vous êtes en activité au cinéma Le Pestel en tant que projectionniste et vous avez aussi ce désir de reprendre peut-être la succession du cinéma Le Pestel.
Eh bien, moi, c'est vrai que je ne me situe pas du tout au même endroit que Bogina et Benoît, qui sont les personnes qui créent. Et nous, dans une salle de cinéma, on est plus là pour faire découvrir et pour mettre en valeur les œuvres des cinéastes. Et c'est super, évidemment, quand on les accueille. Mais donc, la programmation du Pestel est très éclectique. Toutes les semaines, on met en valeur des œuvres art et essai plutôt fragiles, parfois pointues. Et à la fois, on a aussi des films familiaux, grand public, jeune public. Et donc, c'est effectivement un travail qu'on veut continuer. Mon employeur, donc Jean-Pierre Surle, partant à la retraite le 31 décembre 2026. La mairie va chercher une autre personne délégataire pour s'occuper du Pestel. Et il s'avère que on a très envie de continuer ce travail-là. Et donc on a créé un petit collectif qui est soutenu par des collectifs beaucoup plus grands. Hein. C'est un travail vraiment... de groupe, quoi. Et en fait, la mairie va bientôt publier un cahier des charges dans le cadre d'une délégation de services publics auquel nous souhaitons répondre. Et quand je dis nous, c'est l'équipe actuelle. Hein. Il y aura Agnès et Karen qui travaillent déjà au Pestel Café. Et puis Chloé, qui n'est pas là, mais qui a participé à la création de Cinédi. Donc, affaire à suivre. Déjà, la première étape, ce sera les élections. 15 et 22 mars, et la deuxième étape, ce sera la rédaction de notre projet, qu'on a déjà bien travaillé. Enfin, on a fait un gros travail de terrain là, en janvier-février. On a rencontré énormément de partenaires actuels et à venir. C'est un travail qui va alimenter du coup notre projet. Et on n'a plus qu'à attendre le cahier des charges pour candidater quoi, à cette délégation de services publics, en espérant fort convaincre la prochaine équipe municipale de notre sérieux et du fait qu'on va évidemment poursuivre ce travail au Pestel avec l'exigence qui fait l'identité de ce lieu. Quoi.
Un cinéma d'art et essai. J'avais reçu justement quelques temps après son attribution de César. Lui-même me disait que dans le DIY, à sa connaissance, il y avait au moins une vingtaine de personnes qui travaillaient dans le milieu du cinéma.
Même plus, non ?
À sa connaissance, oui. S'il y en a plus, encore mieux. Ouais. Est-ce que ces personnes ont-elles un contact avec le cinéma Le Pestel ? Est-ce qu'elles sont aussi un relais de ce lieu d'expression ?
Ouais, le Pestel, j'imagine, parce qu'on y passe forcément. En général, on aime voir des films, et si on travaille dans le cinéma, on a souvent des films à montrer. Après, Cinédi, nous, on a essayé de se regrouper aussi pour s'identifier un peu là-dessus et agir, mais pas qu'au niveau de Die. On fait des échanges aussi autour de Cré. Enfin, dans toute la vallée, il y a 5 ans, les premières rencontres, on était 80 personnes dans l'audiovisuel sur toute la vallée de Cré et du Diois. Et maintenant, ça doit être du coup encore plus. On n'en a pas refait encore récemment. Là, on est en échange avec des gens de Cré, justement, pour voir ça, mais il y a effectivement beaucoup de gens, et je pense que ça a l'air d'être assez récent quand même ces dernières années.
Puis il y a le festival Ad Hoc aussi hein, qui existe. J'imagine que vous avez des liens avec.
Ah bah, Bogina a montré son film.
Oui, l'année dernière, j'ai montré un film qui était sorti il y a quelques années.
Télévision nationale Versailles, dernière heure. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est avec une douleur profonde que nous devons donner le récit des désordres dont Paris est le théâtre depuis hier. Nous venons d'apprendre avec horreur que les généraux Lecomte et Clément Thomas ont été sauvagement exécutés par la foule qui s'est interposée lors de la reprise des canons de la garde nationale à la butte Montmartre.
Pendant ce film, on va souvent nous servir de citations du Père Duchesne et du Cri du Peuple qui, elles, sont authentiques.
Nous allons maintenant commencer un interrogatoire, comme
ça, une série de reportages, comme
l'interview des gens du 11e, pour savoir un petit peu de quoi ils ont besoin maintenant que tous ces changements sociaux arrivent.
Bonjour.
Donc de quoi avez-vous besoin ?
C'est la télé des riches ou des pauvres ?
Nous sommes la télévision communale.
Bon, ça va. De quoi on a besoin ?
Oui.
En tout cas, on va rien demander aux riches, moi je vous le dis, on va rien revendiquer non plus. Parce que maintenant, les armes, on les a. Sont là, je vois pas qui va me reprendre mon arme maintenant. Parce que nous on est le peuple armé. Alors on va prendre, on va occuper, voilà. Et on va sûrement pas les prier monsieur Thiers ou d'autres pour nous faire des réformes. Des réformes on en veut pas. C'est la révolution aujourd'hui. On a sué. Depuis le temps qu'on sue. Et bien aujourd'hui on a les armes, on prend tout ce qu'ils ont.
D'accord, merci beaucoup.
Vous, qu'est-ce que vous attendez ?
Moi je veux du travail. J'étais cuisinière dans une famille bourgeoise et puis ils m'ont licenciée. Alors maintenant j'ai plus rien. Alors ce que je veux c'est du travail. Je lave le linge, n'importe quoi, mais je veux travailler. Je veux qu'on me donne la possibilité de travailler.
D'accord. Et vous ?
Bien sûr, moi, comme tout le monde, j'ai faim. Mais pas seulement. Je trouve que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'on a aussi faim d'apprendre. C'est-à-dire qu'on en a marre que l'éducation et apprendre à lire et à écrire, ça soit le privilège de gens qui s'en servent pour nous rendre encore plus esclaves. Aujourd'hui, l'égalité, ça veut dire que tout le monde peut aller à l'école, tout le monde récupère le droit à ce qu'on appelle la culture des bourgeois. Mais on a le sens du beau, on a le sens de la pensée aussi. On veut pouvoir critiquer les choses autour de nous. Et pour ça, il faut qu'on puisse apprendre. Ça, c'est le plus important.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous attendez des changements qui ont lieu en ce moment ?
Eh bien, nous, on veut des écoles. On veut des écoles pour nous mettre tous nos enfants. On en a assez de voir
on
tous ces enfants qui traînent dans les rues. On veut des locaux. On sait qu'il existe des locaux vides et on voudrait les remplir d'enfants. Oui, voilà.
On voudrait que les filles apprennent à lire, à écrire, un vrai métier. Il y a trop d'enfants dans les rues. On veut rencontrer les parents qui nous amènent leurs enfants. On veut qu'on s'organise. Voilà.
On a besoin de s'organiser. On a même besoin de parents qui nous aident à penser à cette école nouvelle, une école laïque, obligatoire, gratuite pour tous les enfants.
Et vous, qu'est-ce que vous attendez ?
Ce que j'attends, c'est l'arrêt total de l'esclavage, de l'exploitation. Il y en a marre, on n'en peut plus. On est traités comme pire que des animaux, c'est plus possible. C'est plus, il faut que ça s'arrête. Femmes, la dignité, les femmes, même en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme, il n'y a aucun espace pour les femmes. La dignité. On a besoin de dignité.
Il n'y a pas de place pour les femmes aujourd'hui. Il faut une vraie parole pour les femmes. Il faut un journal pour les femmes. On ne connaît pas les problèmes des femmes. Elles n'ont pas la place dans cette société.
Aussi bien au niveau du travail que de la parole.
On veut un journal, on veut une feuille de chou, n'importe laquelle. N'importe une presse qui ne soit pas censurée, où les femmes peuvent poser les problèmes des enfants. Les enfants, le travail, c'est vraiment ça aujourd'hui.
Vous êtes ici pour nous parler donc de cette projection du film de Peter Watkins, La Commune. Peut-être nous en dire un mot, Benoît.
Un mot, ça va être dur, à part génial, peut-être.
Un grand mot, alors.
Génial. Pour moi, c'est dans mes films préférés. Enfin, ça fait 40 ans que je regarde des films, 35 ans, et j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir. Watkins, c'est pas un cinéaste qui est trop étudié, ça change un peu maintenant, mais qui est pas trop étudié dans les circuits académiques, dans les écoles. Et du coup, moi, j'ai attendu 25 ans de regarder des films. J'ai l'impression de pas avoir fait le tour, mais d'avoir vu, ça y est, d'avoir un peu ce que j'aimais dans le cinéma. Et à 30 ans, j'ai redécouvert ce réalisateur qui a vraiment une filmographie très, très atypique. Il est britannique, mais il a très vite quitté le Royaume-Uni parce qu'on lui a demandé de plus faire de films là-bas. Donc, il a tourné en Suède, il a tourné en France. Si on peut partir d'abord de son historique, tu disais effectivement, c'est quand même le seul réalisateur de fiction à avoir reçu un Oscar pour du meilleur documentaire pour son film The War Game, La Bombe en français, mais le jeu de la guerre en anglais est quand même beaucoup plus fort comme titre, où il simule une attaque nucléaire au nord de Londres. Donc, il demande aux gens de le jouer, mais en filmant comme un documentaire, comme un reportage. Du coup, les Oscars ont dit, c'est un documentaire, on lui remet l'Oscar de meilleur documentaire. L'année d'après, ils ont rajouté la règle disant qu'il fallait quand même donner un Oscar du documentaire pour un vrai documentaire et pas une fiction. c'est quelqu'un, voilà, dès le début, c'était son premier ou deuxième film, je ne sais plus, avec Culloden. Il avait fait quelques courts-métrages avec une compagnie de théâtre. Et d'ailleurs, il garde une trace de théâtralité dans son film. Et dès le début, il y a sa méthode de mélanger des tournages comme un reportage sur des reconstitutions historiques, souvent, ou sur des fictions. Il part aussi dans la dystopie. Et en interrogeant beaucoup le rôle des médias, ce qu'il va mettre au point dans La Commune, qui est son dernier film, son chef-d'œuvre, on pourrait dire, 6 heures. Donc 6 heures, c'est même pas la moitié d'une saison de Game of Thrones, hein, je pense. Et c'est bien plus palpitant qu'une saison de Game of Thrones. Il reconstitue toute l'histoire de la commune du 11e arrondissement de Paris, alors qu'il n'est pas le 11e arrondissement actuel, et ça a été changé après. 200 personnes qui se réunissent dans un décor complètement factice pour faire vivre ce qui s'est passé pendant ces quelques mois qu'a duré l'expérience de la commune de Paris en 1871. C'est filmé, donc, c'est présenté par deux reporters télé qui travaillent pour Télécommunard et qui, de temps en temps, on a aussi des bouts de la télé Versaillais, qu'on ne voit pas sur le plateau, mais donc il y a vraiment deux reporters avec un micro qui vont interroger les gens pour animer ces reconstitutions pendant les 6 heures. Voilà, en bref, le film.
Ouais, j'aurais envie d'ajouter, comme tu parles de ces présentateurs de la télé communale, que la comédienne qui joue l'une des journalistes, Aurélia Petit, va être avec nous lors de cette projection et va du coup nous raconter les coulisses de cette folle expérience.
Parce que on a vraiment l'impression, moi je l'ai visionné, hein, ce film, on a l'impression que c'est... Parce qu'initialement, c'était une commande aussi pour la télévision française, je crois.
Pour Arte.
C'est pas une commande.
C'est juste que Arte est la seule chaîne, en fait, qui s'est positionnée positivement, qui a donné un peu d'argent à ce film.
L'idée est venue de celui qui s'occupait de la maison de la parole errante à Montreuil, Armand Gatti, qui est un metteur en scène et dramaturge très connu, qui connaissait déjà Watkins, et il lui a proposé de faire un film dans ce lieu qu'il venait d'acquérir à Montreuil, ce grand hangar. C'était un des événements qu'il voulait évoquer. Donc ils se sont mis à rencontrer une société de production à Marseille, je crois, et ils ont eu le soutien d'Arte après.
Et je voulais revenir justement sur cette notion, quand on le visionne, ce film, on a l'impression que c'est une émission en direct avec les aléas des plantages ou des pertes de fréquences. Et donc, c'est de la télévision pure, quelque part aussi.
C'est plutôt une critique des médias.
Une critique des médias. Lui a commencé à la BBC, à la télévision aussi. Hein, donc c'est vrai qu'il assume ce côté un peu reportage télévision en direct. Il ne va pas gommer les aspérités, il va garder un long montage dans lequel il se mêle des interventions des gens qui parlent aussi en leur nom propre de leur position en 99-2000. Ils expriment leurs opinions sur ce qu'ils pensent de ces événements, mais de la société, des médias. Il y a effectivement un jeu entre le réel, le tournage et les événements historiques.
Oui, je pense que c'est ce que Aurélia Petit pourra nous raconter. C'est la manière dont les personnes ont travaillé sur le plateau en interprétant des personnages de la commune, mais sans avoir de texte préétabli, et donc en parlant aussi en leur nom. Faut savoir que c'est pas des comédiens professionnels. La plupart sont intermittents du spectacle, chômeurs, sans-papiers, militants, ou simples citoyens, et qui, en se plongeant dans l'ambiance de la commune, partagent en même temps leurs interrogations sur les réformes sociales et politiques de leurs contemporains à eux, en fait. Et donc, c'est, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce n'est pas seulement un tournage. En fait, c'est une expérience collective que ces personnes ont vécue pendant 2 semaines. Et ça se sent très, très fort quand on regarde le film. On n'a pas l'impression seulement de voir un film, on a l'impression de participer à quelque chose de très intense, un peu inédit, très précieux.
Et il me semble d'ailleurs qu'il y a deux versions du film. Nous, dans les salles de cinéma, il y a eu un distributeur pour la version courte qui fait que 3 heures. Et là, avec Cinédi, c'était vraiment une volonté très forte de passer la vraie version, quoi, qui est approuvée et défendue par Peter Watkins lui-même. Et il faut savoir que très peu de cinémas se lancent dans ce défi.
Oui, parce que on dit la version courte, mais c'est... celle que le réalisateur a rejetée, disant que lui, c'est la chaîne Arte qui lui a imposé cette version de 3 heures, qui était diffusée à minuit sur une chaîne, sur leur chaîne de manière vraiment complètement confidentielle.
Et qui continue aussi à être.
Et qui continue à être la seule distribuée, que lui a toujours renié en disant il manque la moitié du film. Et justement, tous ces événements qui montrent que c'était vraiment une expérience. Tu disais que les gens n'avaient pas de texte, mais en fait, tous les jeux interprètes devaient même créer leurs personnages. Aller faire des recherches, ils fournissaient des collaborations avec des historiens, un gros corpus, et c'était à chacun d'aller chercher son personnage, de voir comment il avait vécu, d'assumer aussi d'une part de création, hein, parce qu'on parle que essentiellement de personnes lambda. Il y a quelques députés, personnes un peu institutionnelles dont on a des traces historiques, mais beaucoup de gens sont des gens comme tout le monde. Donc c'est à chacun après aussi d'imaginer, ah ben moi comment je vivrais ça si j'étais boulanger, si j'étais cordonnier, enfin je sais pas quoi, à cette époque-là à Paris. Donc il y a vraiment une implication de tous ces gens qui ont fait de cette expérience de tournage quelque chose de très particulier.
C'est un documentaire, Bugina, toi-même, produisant des documentaires. Est-ce que ça t'a marqué aussi, cet aspect d'expression?
Ah oui, pour moi, il y a vraiment...
Il y a peut-être une envie d'essayer de...
Ah oui, il y a plus qu'une envie. Oui, ça a changé ma vie, ce film. Il y a vraiment un avant et un après. Je l'ai effectivement découvert. Moi, j'ai fait la Fémis et on n'en a jamais parlé pendant l'école. J'ai découvert la Commune et le travail de Peter Watkins après. Et c'était vraiment un choc. C'est-à-dire que pour moi, il y a une manière tellement vivante de fabriquer un film, d'embarquer les gens, de travailler dans une frontière entre fiction et documentaire, dans tout ce que ces deux formes peuvent avoir de riche, que du coup, effectivement, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose un peu dans cette veine-là. Et donc, j'ai creusé l'affaire, moi, à la fois personnellement, pour des projets que je développe, mais aussi, j'ai mené pendant 2 ans un cours à Paris 8, avec ma collaboratrice Isabelle Klein, autour de cette notion de reenactment, donc de reconstitution d'un événement historique, mais où on se situe depuis notre présent avec les échos que cet événement peut avoir avec nous aujourd'hui, en partant de notre vécu, de notre expérience, de notre corps.
Chloé, toi, tu auras la lourde tâche donc, de projeter ce film.
Déjà, le plus difficile, c'est d'obtenir les fichiers du film. Là, on est dessus depuis des semaines, ça nous prend un peu de temps. Mais normalement, un autre cinéma va nous faire parvenir les fichiers. C'est les Écrans de Saint-Denis, ils ont fait une rétrospective vraiment très dense. Enfin, c'était dans le cadre d'un festival.
On a oublié de mentionner que Peter Watkins est mort l'année dernière.
Exactement. Et donc, on a juste coordonné un petit peu ça, chercher aussi un accord financier, parce que du coup, là, on passe une version qui n'est pas distribuée, donc ça change un peu les règles du jeu de notre côté. Mais voilà, ces deux thématiques commencent à se boucler, quoi. Enfin, ça commence à rouler comme sur des roulettes. Et c'est vrai que c'est un projet que Cinédi avait quand même depuis un moment, et donc on est très heureux de pouvoir le mettre à exécution. Enfin, c'est pas le bon mot, mais bref, de pouvoir aller au bout. Et je pense que ça tenait vraiment à cœur à plusieurs personnes là, de l'asso. Donc voilà, c'est une expérience. Moi, j'espère qu'il y aura du monde. Et on va tout faire pour que ce soit le cas. Et le film a été annoncé dans notre programme. On va faire aussi des affichages. L'idée, c'est aussi que ça parle... qu'il y ait un effet bouche à oreille comme il y a très souvent au Pestel, et qu'on soit plein à se réunir autour de ce film le 15 mars à partir de 9h30, sachant que les bureaux de vote ouvrent à 8h et que ce sera possible aussi de voter entre 17 et 18h après le film.
Il y a cette longueur du film de 6h, est-ce que vous proposerez quelques encas?
Oui, bien sûr.
Pour prendre une pause de temps en temps. Hein.
En fait, c'est deux fichiers. Il y en a un de 3 heures à peu près et un autre tout aussi long. Et entre les deux, on a prévu 45 minutes d'entracte pendant lesquelles il y aura évidemment de quoi se restaurer.
Et peut-être un petit mot pour dire que si certaines personnes sont découragées d'emblée par cette durée un peu impressionnante, Personnellement, je trouve que c'est un film dans lequel on peut entrer et sortir assez facilement. Il a une forme particulière qui fait que c'est chouette de voir le début parce qu'il y a plein de clés qui sont là au début, mais ensuite on peut, si on a vraiment besoin de voter par exemple entre deux scènes, c'est possible. Le début est assez particulier parce que on entre dans un décor théâtral dont on voit les bords, en fait. On voit qu'on est dans des coulisses. Et il y a un plan séquence qui traverse les décors vides. Et en fait, on est le lendemain de la fin du tournage et de la fin de la commune après l'exécution des communards. Et il y a une voix off qui nous raconte à la fois la fin de la commune et la fin de ce tournage. Et donc, tout de suite, on est embarqué dans cet espace un peu interstitiel entre 1871 et aujourd'hui un plateau de tournage.
À mon souvenir, c'est un film en noir et blanc et avec une lumière plutôt tamisée. Hein. C'est censé se passer la nuit, je trouve. La plupart des scènes se passent la nuit, je crois.
C'est vrai qu'il y a pas mal de scènes à la bougie. Moi aussi, j'ai cette image d'une maison, par exemple, d'une famille qui habite le 11e arrondissement et qui s'éclaire à la bougie. En fait, ce qui est très frappant dans la commune, c'est l'alternance entre des scènes d'intérieur, qu'on pourrait dire assez intimes, avec des interviews, avec des personnes, avec leur histoire individuelle et des scènes de foule, de discussions collectives. Il y a vraiment une dynamique très forte entre l'individu et le collectif.
Et puis, le fait que tout soit tourné dans ce grand hangar avec de l'éclairage artificiel qui nous sort de... On ne sait pas si ça se passe le jour ou la nuit, en fait. On est dans une hors du temps avec ce dispositif qui rend l'expérience assez particulière.
Oui, et c'est comme dans d'autres films, par exemple, je pense à un film de Lars von Trier qui s'appelle Dogville, et on est aussi comme ça dans un hangar et dans une sorte de faux décor. Et en fait, ce qui est un peu magique, c'est qu'au début, c'est un peu troublant. On se dit, mais où est-ce qu'on est? Est-ce que je vais y croire à cette histoire? Et en fait, en très peu de temps, on se laisse emporter par les personnages et ce qui se passe. Et en fait, on a l'impression d'assister là très fortement avec la commune, comme un documentaire, comme si on était en immersion en 1871.
Ça me fait penser à plusieurs films qu'on a passés au Pestal récemment, qui sont vraiment à la frontière entre le documentaire et la fiction, même si c'est vraiment deux catégories de plus en plus perméables. C'est Les Filles d'Olpha qu'on avait passé, et puis aussi Little Girl Blue, donc Mona Hachache et...
Kauter Benania.
Merci. Et en fait, l'idée, c'est que c'est classifié comme des documentaires, mais à l'intérieur de ces films, des personnages sont aussi joués par des comédiens, comédiennes professionnelles. Et du coup, ça crée un entre-deux qui est très, très plaisant pour le spectateur parce que on se laisse complètement embarquer par ce qui est raconté et on sait qu'il y a... à la fois des personnes qui jouent leur personnage, enfin qui jouent leur propre qui ils sont quoi. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui vont incarner, qui vont s'approprier des histoires et qui vont les jouer. Enfin, moi je trouve.
Oui, on a l'impression d'assister aux coulisses de la fabrication d'un film. On a l'impression on est très actif quand on est spectateur parce que on nous donne tout un tas de clés que d'habitude on n'a pas.
C'est quand même assumer que le cinéma est un artifice comme tout art, en fait. Et contrairement à une tendance qui va devoir gommer tout pour nous plonger dans un réalisme absolu, avoir une image absolument parfaite, un son comme en immersion. Là, il assume que pour l'immersion, au contraire, on montre que c'est des feuilles de décor qui sont jouées par des gens qui interprètent, dans lesquelles on voit les caméras. Et en fait, on est encore plus pris parce qu'on est aussi conscient du dispositif et... On n'a pas une espèce de croyance de savoir si c'est vrai ou pas. On sait que c'est faux. Et du coup, on y va. Je veux dire, rien ne paraît plus réaliste qu'un rêve. Ça joue là-dessus.
Peter Watkins était toujours à la recherche d'une justesse du propos.
Non, parce que...
Par rapport aux comédiens qu'il filmait ou aux personnages.
Très sourcé quand même.
Très sourcé, mais il admet beaucoup plus la pluralité de points de vue. Il donne dans la commune énormément de la parole aussi aux Versaillais, aux personnes, à Adolphe Thiers, aux personnes qui étaient contre la commune. Il a tenu à ce qu'il allait chercher dans le 16e arrondissement des personnes qui étaient contre les événements de la commune pour qu'elles participent dedans. Donc c'est une forme de justesse, mais c'est pas... Enfin, c'est assez particulier. Il ne cherche pas une qualité d'interprétation qui soit parfaite. Il s'assume que c'est beaucoup des amateurs, donc on fait ce qu'on peut. Et voilà, parfois le jeu paraît un peu fou, artificiel, mais ça fait partie de l'expérience, du processus. Quoi.
Mais quand je parle de justesse, c'est justement qui nous. Ce sont des images et des paroles qui nous saisissent parce qu'elles sont très proches de nous. Voilà, c'est pour ça que je parlais de justesse, du propos.
Ouais. Oui, je crois qu'il y a vraiment un enjeu que les participants de ce film se sentent pleinement investis par ce qu'elles disent. Il y a un rapport très fort à la parole, au corps et à la parole. Lui, il en parle beaucoup hein, dans les commentaires qu'il fait sur ce tournage. C'est le fait de donner la parole à des gens qui peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils pensent. Et la parole est comme un acte, en fait.
Effectivement, moi, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à bavarder ici et assez peu à mettre en pratique les décrets qu'on a votés.
Et au niveau du budget, que dire ? Ah, rien. Tu
comprends. Moi, j'ai quelque chose à dire.
Les trois quarts de l'argent dont on dispose vont à l'armée. Mm-hmm. Voilà, le reste à l'intendance et à notre administration qui fonctionne déjà miraculeusement avec un nombre de fonctionnaires qui n'est pas très important. Voilà.
Enfin, moi, je pense qu'il faut parler de la dégradation militaire, parce que de la situation militaire, pardon.
Ça me paraît plus sérieux.
Parce qu'elle est quand même, là, et je voudrais signaler par rapport à cette affaire des finances où le travail est très bien fait, de toute façon, qu'avec une économie scrupuleuse, on va probablement y arriver. Mais en fait, je voudrais que tous veillent au gaspillage.
Voilà. Pour La Commune hein, de Peter Watkins, donc pour le 15 mars. Il y a aussi l'actualité de Cinédi pour les prochains temps. Il y a peut-être son Assemblée Générale à venir.
Oui, au mois de juin, on fait notre Assemblée Générale chaque année à cette époque. C'est pas un gros événement parce que.
L'actualité de Cinédi, c'est surtout donc, le 15 mars, mais aussi une séance qui aura lieu en avril autour d'un film d'animation japonais.
Ouais. Les ateliers et les projections en plein air, ouais, on va plus partir là-dessus.
Tout à fait.
Et ce film japonais, donc
Oui, c'est grâce à Chloé, à qui on peut faire des séances au Pestel de temps en temps le dimanche. On a lancé un deuxième cycle, après un cycle plus pour adultes, on passe la commune. On a lancé un cycle plus visant quand même les enfants et adolescents. Et donc, on l'a commencé par des films d'animation japonais. On en a passé deux déjà. Qui ont eu un franc
très,
succès,
très
on était ravis,
succès,
ouais. On en a fait un où la salle était complète, et donc là, on finit de choisir celui qu'on va passer au mois d'avril. On fait aussi comme activité, on a un atelier de création vidéo avec des jeunes qu'on fait dans le Pestel avec un camarade, Raphaël Daniel. Et on travaille sur des projections en plein air. Alors cette année, on a un peu moins en projet parce qu'on a un projet qui était repoussé à 2027 de grosses projections qui seraient dans plusieurs lieux de la vallée, un à Die et dans trois autres villages, et qui mêlerait un spectacle créé spécialement de comédie musicale et une projection d'une comédie musicale. Donc un gros événement autour de la comédie musicale pour le printemps 2027.
Et je rajoute juste que dans le cycle Japanime, on est toujours... on invite en fait Maki de Yamaneko à nous restaurer à l'issue de la séance et ça a toujours un franc succès également. Mmh. Et en fait ça c'est quelque chose qu'on va essayer de faire perdurer, c'est-à-dire des liens beaucoup plus étroits avec ce qui se passe au bar et ce qu'on peut proposer au public après ou avant une séance. Quoi.
Ça animait les projections en plein air aussi, on avait toujours à cœur de faire quelque chose d'événementiel avec des animations, de la nourriture, des choses comme ça, redonner ce caractère un peu festif au cinéma qui s'est parfois un peu perdu dans certains types d'événements.
Oui, je voulais juste dire que les séances du dimanche s'inscrivent en continuité avec ce que proposait à l'époque Kate au Pestel, des ciné-brunch, et où la convivialité était au centre de la projection.
Avec un petit déjeuner compris, c'est ça.
C'est ça.
Il y aura aussi donc cette délégation hein, du service public, un peu compromise avec cette campagne actuelle municipale. Je ne sais pas si vous avez le souhait de vous exprimer un peu sur certains programmes qui mettraient à mal un peu cette organisation.
Oui, bah en fait, au Pestel, on a été très surpris et inquiets de découvrir l'un des programmes, parce qu'en fait, on n'avait pas du tout été consultés ni informés de cette volonté de changer le statut du cinéma. Donc, dans ce programme, il est question de fusionner le cinéma et le théâtre, de municipaliser ces salles. Et bon, nous, on a été surpris et inquiet parce que en plus de pas avoir été concerté, on pense pas que ce soit la meilleure option pour nos deux lieux culturels. Voilà. Donc on verra ce qui sort des élections parce qu'on sait pas si cette personne sera élue d'une part, ni si elle mettra à exécution cette mesure d'autre part. Donc bon, pour l'instant, on attend de voir la fin du mois de mars. Et dans tous les cas, au dernier conseil municipal, la procédure de lancement des DSP du théâtre et du cinéma a été votée. Donc dans tous les cas, des cahiers des charges vont paraître et dans tous les cas, on y répondra. Et normalement, d'ici cet été, on aura plus de visibilité sur le ou la délégataire qui reprendra le cinéma. Sachant que voilà, la date dont on est sûr à 100%, c'est que au 31 décembre 2026, Jean-Pierre partira à la retraite. Donc il y aura forcément un changement à ce moment-là.
Non, je pense qu'on peut dire un mot parce qu'en tant que Cinédia, on s'est quand même regroupé aussi autour de l'idée de soutenir cette DSP et de voir comment elle fonctionne quand même extrêmement bien. Je pense que beaucoup d'entre nous viennent dans le Diwa parce qu'il y a ce cinéma et ce théâtre qui font une action exceptionnelle. Et je dis ça parce que j'y travaille pas directement, hein, donc ça attire, même quand on voit les touristes, ils sont ravis, je veux dire, des programmations qui sont présentées. Donc c'est vrai qu'on est très fort en soutien avec cette gestion actuelle et la personne qui reprendra la DSP, quelle qu'elle soit. Hein, mais ce système actuel nous paraît quand même particulièrement pertinent.
Et c'est certainement plus à l'avantage de la municipalité, hein, cette délégation de services publics. Puisque il y a eu un article il y a 3 semaines dans le Canard Enchaîné sur des villes prises par le Rassemblement National qui ont imposé un peu cette démarche, comme ici, de municipaliser donc un théâtre ou une salle de cinéma, ce qui a provoqué une ambiance délétère et qui a fait fuir tout le personnel et donc à cause d'une gestion verticale.
Alors, il y a eu Le Canard, mais il y a aussi une série de podcasts que je recommande qui s'appelle La Culture en Danger. C'est la série documentaire sur France Culture, donc ça c'est en accès libre, vous pouvez y accéder facilement. Et dans le deuxième épisode est interviewée la personne qui travaillait au théâtre de Hénin-Beaumont et qui raconte comment s'est passée cette prise en main justement politique de la culture, en expliquant bien que les choses se font progressivement et de manière insidieuse, et en fait l'indépendance de programmation tend à être de moins en moins effective, quoi. Et en fait, bon, c'est un vrai débat politique parce que, et aussi en réflexion, l'idée d'une deuxième salle au Pestel ou la mise en place d'un cinéma itinérant avec du matériel vraiment qui permettrait de faire du plein air, mais aussi à l'année de passer des films dans tout un tas de salles communales dans toute la vallée. Donc on va voir comment tout ça évolue, mais on sait que le cinéma est politique, en tout cas que ces lieux appartiennent à la mairie. Et donc, nous, en tant que travailleurs, travailleuses, on est complètement dépendants des choix politiques. Donc, voilà, je recommande vraiment cette émission. Et je suis, enfin, voilà, surprise que des idées comme ça, de prise en main, puissent émerger dans le Diwa, quoi. Alors que c'est quand même des outils qui fonctionnent, quoi, qui sont, comme disait Benoît, qui ont une certaine renommée au niveau national, qui sont repérés pour la qualité de leur programmation. Et donc, je ne comprends pas très bien l'intérêt de s'en prendre, enfin, en tout cas, de vouloir changer des choses qui fonctionnent, quoi. Voilà, c'est juste.
Justement, dans cet article, il y avait certaines municipalités qui trouver justement les programmations plutôt élitistes. Et donc, c'est aussi ça, c'est d'amener le cinéma à plus grand public, mais sous réserve peut-être de les abrutir aussi. Peut-être.
Alors nous, c'est un grand reproche qu'on fait au Piestel, hein, c'est qu'on passe 80% de films à réessayer, on passe beaucoup de films étrangers, donc en version originale. Mais en fait, moi, ce que je tiens à rappeler à chaque fois qu'on me dit ça, c'est que en fait, c'est dans le deal avec la mairie que d'être classé à réessai. C'est une obligation qu'on a en tant que délégataire. Et aussi d'obtenir des labels. Qui dit label, dit film de répertoire, dit jeune public, dit film 15-25 et dit film recherche et découverte. Donc en fait, c'est d'une part une obligation et d'autre part c'est l'ADN du Piestel. Ça a toujours été le cas. Tous nos prédécesseurs dans ces murs ont formé aussi le public à la réessai. Et en fait, toutes les semaines, on passe des films aussi français. Toutes les semaines, on passe des films dits plus grand public, toujours de qualité. Voilà, cette semaine, juste par exemple, on a le Marsupilami à l'affiche. Après, il y a des fois où les films à réessai fonctionnent mieux que le grand public. Donc c'est toujours un petit peu... Bon, mais moi, ce que je réponds, c'est qu'on essaye dans chaque programme de penser à tous les publics du Diwa. Et ça, vraiment, les personnes qui râlent, parfois, sont celles qui ne viennent même pas. Donc c'est aussi quelque chose qu'on entend dans cette émission-là. Il y a un peu des préjugés et des on-dit sur certains lieux culturels qui sont diffusés, mais qui ne reposent pas en fait, sur la réalité, parce que c'est souvent des personnes qui s'auto-excluent de ces lieux, qui ne viennent même pas, oui. Alors qu'ils portent un avis dessus. Quoi.
Nous, on a un peu découvert, en collaborant avec le Piestel, la difficulté de faire venir des films. Les gros films américains ne veulent pas venir au Piestel.
Ils viennent, mais tard.
Ou tard, en retard, bien après les autres, avec des conditions qui sont quand même parfois compliquées. C'est pas aussi un refus complet du Piestel. Il y a des enjeux économiques et là-dessus, on ne peut pas transformer le Piestel en un multiplex avec cette salle et à passer qu'Avatar, qui d'ailleurs, Avatar est passé deux semaines au moins à l'écran, en 3D, ouais. VO. Enfin, les gros films, ils passent aussi au Piestel.
Tout à fait. En fait, on peut avoir à peu près tous les films au Piestel. Ce qui nous est imposé par des distributeurs, c'est des délais. Donc nous, on a très rarement des films dits en sortie nationale. Donc d'autres cinémas vont passer les films bien avant nous, au moins une, deux, trois semaines avant nous. Mais ça nous permet aussi de faire des tarifs bas. Ça nous permet aussi de faire ce qu'on peut avec un mono-écran, quoi, parce qu'en fait, prendre un film, c'est en délaisser un autre. Faut trouver un équilibre et vraiment un programme de cinéma c'est un exercice d'équilibriste vraiment. Donc moi j'incite les gens qui ont des questions et des déceptions quant à notre programme à venir échanger avec nous quoi parce que il y a beaucoup de réflexions derrière chaque programme voilà c'est ça que je veux dire et donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions.
Des réflexions, effectivement, j'avais reçu une dame il y a quelques semaines qui me disait que Die avait un sacré privilège avec ce cinéma. Ce n'est pas un lieu uniquement de projection, mais aussi beaucoup d'échanges, de débats autour de films. Mm. Et ça, c'est un luxe, hein, de plus en plus rare, semble-t-il.
Alors oui et non, parce que c'est quand même de plus en plus valorisé dans les classements art et essai. En fait, dans les cinémas art et essai, c'est vraiment monnaie courante que d'organiser des animations autour des films. Par contre, oui, il y a des entraves, que ce soit l'éloignement de Paris, des grandes villes en général, ou les difficultés en termes de transport, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en profite. Hier soir, on a quand même fait un très bel événement autour du documentaire Pédale Rurale, en invitant des personnes qui ont elles-mêmes organisé une Pride à Die. Donc, comme c'est le sujet du film, c'était vraiment un échange super. Dimanche, on a la soirée du 8 mars avec un très beau film qui s'appelle La Maison des Femmes, qu'on a là pour le coup en sortie nationale. Alors là, on était contents.
Pédale Rurale aussi, non ?
Tout à fait, Pédale Rurale. Ah, bien vu. Et en fait, ce qui est super, c'est évidemment la richesse du territoire. Nous, à chaque film, on peut penser aux uns aux unes aux autres, que ce soit les cinéastes, les techniciens, techniciennes ou les associations qui sont nombreuses dans le Diwa. Et là, en l'occurrence, dimanche, le film sera suivi d'une grande table ronde avec, pareil, des intervenantes de grande qualité. Donc je vous invite à venir, évidemment. Et en fait, pareil, dans chaque programme, il y a entre 3 et 10 animations, que ce soit voilà, des rencontres, des avant-premières. Donc,
et des partenariats avec les associations du Diwa aussi.
Tout à fait. Et notamment avec Air Diwa. Maintenant, chaque mois, on présente le programme avec Chloé et Eddy. On fait une émission, je crois, depuis septembre. Et on commence vraiment à en parler autour de nous pour qu'elle soit de plus en plus connue. Quoi. Et donc, voilà.
Friction du réel aussi ?
Tout à fait. Friction du réel. On participe avec une soirée le 19 avril, si je me souviens bien. On passe un film plutôt culte, plutôt classique, choisi avec Jean-Pierre, qui est L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche, mais qu'on va vraiment analyser avec une universitaire qui s'appelle Vera Léon. À l'issue de la projection, on décortiquera toutes les thématiques du film. La thématique cette année, en tout cas de Friction du réel, c'est cohabiter. Et donc l'idée, c'était de prendre un film qui évoque cette thématique à plusieurs égards et de pouvoir décortiquer et analyser aussi comment on cohabite avec l'histoire du cinéma. Et comment on peut le voir en 2026, un film des années 2000, autrement.
Ouais, tout début 2000.
Début 2000. Donc, voilà.
Est-ce qu'il existe une visibilité de Cinédi sur Internet ?
Non.
Non,
là-dessus.
Mais d'accord. Par contre, dans le programme papier et le site internet du Pestel, on évoque toujours
Cinédi. On fait des réunions mensuelles où tous les gens sont le bienvenu à l'issue des projections.
Voilà. Vous êtes notifié sur la programmation du Pestel.
Ouais, hein. On n'a pas de visibilité pour l'instant en ligne.
Mais peut-être un jour.
Très bien. Ben écoutez, l'émission s'approche de la fin. Je vous remercie en tout cas, Benoît, Bogina et Chloé, d'être venus sur Air du Bois pour nous parler donc de l'actualité du Cinédi et puis aussi du Pestel Café et du cinéma Le Pestel. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.